La base de la préservation de la santé réside dans la méthode de vie musulmane. La solution pour prévenir le genre de maladie que nous avons cité dans un article précédent réside dans l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a instauré tous les principes pour une bonne santé et pour se garder de ce genre de maladies qui sont non contagieuses. Un nombre très important de versets et de hadiths exhorte l'homme à garder un mode de vie sain et à préserver sa santé. Gloire à Allah, l'Organisation mondiale de la santé a organisé un congrès en 1985, à la fin duquel elle fit une déclaration extraordinaire. Elle dit dans cette déclaration que la base de la préservation de la santé est la méthode de vie musulmane. Ils sont même allés jusqu'à publier un livre qui contient 60 usages et coutumes de la vie islamique instaurés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les textes coraniques pour la préservation de la santé et la prévention des maladies. Voyons à présent comment l'islam s'est concentré sur la préservation de la santé et comment il a sensibilisé toute la communauté au danger des maladies non contagieuses et comment il a contribué à préserver la santé. La santé est la grâce la plus importante après la foi. Avec la sécurité et les premières nécessités de la vie, elle constitue la garantie d'une bonne vie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a deux bienfaits dont beaucoup ne sont pas conscients, la santé et le temps libre », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi dit « Après la foi, personne n'a jamais reçu de grâce meilleure que la santé ». Pour préserver la grâce de la santé et l'améliorer, il faut en remercier Allah et ne rien faire qui puisse lui nuire ou la changer. Allah dit dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous ». Sourate 14, verset 7. Voyez comment l'islam s'est intéressé à l'un des aspects de la santé et le prophète a organisé un programme de sensibilisation comme celui que nous venons de réaliser. Essayons de l'imiter et voyons ces divers points un par un. Premier point, l'hygiène personnelle. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles ». Sourate 5, verset 6. La propreté symbolisée par les ablutions est une bonne action généreusement rétribuée sans laquelle la prière n'est pas acceptée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith « Quand le serviteur de Dieu fait ses ablutions, il lave ses mains et ses péchés sortent même d'en dessous de ses ongles. » Il a aussi dit « Les ablutions équivalent à la moitié de la foi » et dans une autre version, « La pureté physique est la moitié de la foi ». Ainsi donc, l'islam considère la propreté pierre angulaire de la santé comme un symbole de la religion et de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Il n'y a que le croyant qui, aussitôt ses ablutions rompues, les refait ». Ceci concerne donc les ablutions. Mais qu'en est-il des grandes ablutions, c'est-à-dire le lavage entier du corps? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La lotion, c'est-à-dire le bain, du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère ». Il a aussi dit « Il est du devoir du musulman envers Allah de prendre un bain tous les 7 jours ». Allah Ta'ala dit aussi dans le noble Coran concernant le bain obligatoire après l'état de Janaba « Ô les croyants, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel ». Sourate 4, verset 43. Concernant la propreté des membres du corps, il existe une longue liste de hadiths, donc on va se contenter ici simplement de citer quelques-uns. Premièrement, les mains. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui à qui un mal survient pour avoir dormi avec du gras aux doigts ne doit blâmer personne d'autre que lui-même. Il a également ordonné de se couper les ongles et de faire pénétrer l'eau des ablutions entre les doigts. » Deuxièmement, les oreilles. Le frottement des oreilles avec l'eau durant les ablutions est une tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, les yeux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se lavait les coins des yeux au réveil. Il disait aussi que c'était un devoir envers les yeux. Quatrièmement, la bouche. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nettoyez vos gencives après avoir mangé ». Il a aussi dit « Le siwak nettoie la bouche et rapproche d'Allah ». Le siwak, c'est une courte tige de bois naturelle utilisée comme brosse à dents. L'hygiène concerne aussi nos vêtements, nos maisons et nos rues. À ce sujet, Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « Et tes vêtements, purifie-les ». Sourate 74, verset 4. Quant à nos maisons, on nous a ordonné de les nettoyer. Quant aux rues, on peut trouver ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écarter un mal sur un chemin est une aumône ». Comparez maintenant cette sensibilisation prophétique à la réalité de nos pays d'aujourd'hui. Voyez les rues de nos pays et celles des pays occidentaux. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, de développement ou de sous-développement, mais de culture et de conception de la propreté chez les individus. Même dans nos mosquées, nous sentons parfois des odeurs insupportables. Les salles de bain y sont sales et pleines de germes. Certaines de nos maisons aussi sentent très mauvais. Imaginez-vous qu'au temps des tribunaux de confession en Espagne, les musulmans étaient reconnus aux salles de bain de leur maison. En voyant un bain propre, les enquêteurs se savaient dans une maison musulmane. Passons maintenant à la préservation de la santé physique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime le croyant fort plus que le croyant faible ». Il a aussi dit « Tu as des devoirs envers ton corps ». L'islam nous ordonne de respecter l'équilibre alimentaire pour préserver nos corps de l'obésité. Voyez comment dans ce domaine, il a devancé les idées modernes de 1400 ans. Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il, Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Sourate 7, verset 31. Il a aussi dit dans la sourate 20, verset 81 « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrats. » Allah Ta'ala a aussi prescrit le jeûne. Parmi les avantages sanitaires de ce dernier, nous pouvons citer. Premièrement, il libère nos organes de la graisse qui les étouffe et rajeunit nos réserves. Deuxièmement, sous l'effet du jeûne, l'acide chlorhydrique et la bile qu'il contient, n'étant pas affaiblis par l'effet tampon et l'action absorbante des aliments, détruisent ainsi bon nombre de bactéries et parasites nocifs, éliminent les vieilles cellules intestinales et décapent nos parois digestives. Il abaisse aussi le taux de sucre sanguin et provoque une déshydratation du corps, donc un allègement du travail du cœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez, vous serez en bonne santé ». Hadith rapporté par Abu Nu'aym d'après Abu Huraira. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam met l'accent sur cet aspect bénéfique du jeûne. Il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient plus nuisible que son estomac ». Et il a aussi dit « Quelques bouchées suffiraient au fils d'Adam pour vivre ». Et encore, nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim, et lorsqu'il mange, il ne le fait pas assiété. Imaginez-vous ce régime alimentaire? Je connais des diététiciens qui disent « Oubliez tous nos programmes alimentaires et suivez ces deux hadiths, vous atteindrez le poids idéal ». C'est le programme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous devons suivre. La propreté interne, la préservation de la santé et l'équilibre alimentaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne conseillait pas seulement cela, il ordonnait de faire du sport. Il disait à ses compagnons au sujet du tir à l'arc, « Lancez les flèches, au fils d'Ismaïl, votre père était un bon tireur. » Il leur rappelait les talents de leur grand-père au tir à l'arc. Il organisait des courses entre les compagnons et de même entre les femmes. Il accompagnait Aïcha hors de la ville dans le désert et faisait la course avec elle. L'islam interdit la consommation de toutes les nourritures nuisibles à la santé. Il existe un verset qui peut se traduire par « Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » C'est le verset 172 de la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2. Mais pas seulement cela, le Coran énumère plein d'aliments bénéfiques parmi lesquels le miel, les poissons, les figues, les olives et le raisin. Un médecin a étudié ces aliments nommés dans le Coran et le nombre de fois où chacun a été mentionné. Il a trouvé curieusement que plus l'élément était mentionné, plus ses bienfaits pour la santé étaient reconnus. On se demande pourquoi ces aliments ont été mentionnés dans ces proportions. Voyez ce verset. Leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Verset 157, sourate 7. La consommation des boissons alcoolisées est par exemple défendue pour ces raisons. Nous avons aussi un autre verset qui dit ce qui peut se traduire par « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » C'est le verset 90, sourate 5. Tout ce qui rend ivre, tous les narcotiques en grande ou petite quantité sont défendus. Tout ce qui est nuisible à la santé de façon générale est prohibé. Et pas cela uniquement. La fornication et la préservation sexuelle sont également défendues pour notre santé. Le verset nous dit, ce qui peut se traduire par « Et n'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Verset 32, sourate 17. En accomplissant ces actes, vous vous faites du tort à vous-même en premier lieu et après, vous faites du tort à la société. Wa Allahu a'lam.